Radio Caravane.
Radio Caravane. De l'ombre des coulisses
à la lumière de la piste.
Radio Caravane. Bonjour mesdames, messieurs et toute autre personne qui ne se retrouve pas dans les cases binaires. Vous écoutez la première émission Radio Caravane qui a couvert la 7e édition de l'événement Créatrice à la Grainerie où les questions sociétales sont au cœur d'une liberté de corps, de mouvement et une liberté de soi. Au programme de ces 30 minutes, Inès Macario de la compagnie La CID nous présente son laboratoire d'exploration curieuse dans une conférence qui remet le plaisir au cœur des préoccupations.
Le cirque queer nous révèle ce qui est le premier artifice et nous parle des conditions d'être artiste queer dans les arts de la scène.
Ensuite, Yaël Antoine de la compagnie Diel nous emmène au rassemblement des Tenaces qui cherchent à créer de nouvelles pédagogies critiques et bienveillantes dans les structures et écoles d'art.
Mais commençons tout de suite par retrouver Frédéric Cournoyer-Lessard qui nous partage son vécu entre cinéma et pratique circassienne.
Bonjour Frédéric, comment tu vas ?
Bonjour, je vais bien.
Avant de commencer, est-ce que tu peux nous donner tes pronoms d'usage ?
Oui, donc c'est Yel, accord en alternance à l'oral.
Comment on jongle entre les arts de la scène vivante et les écrans ? Ou l'écran est quand même quelque chose d'assez figé.
C'est intéressant. C'est vrai qu'en cinéma, dans le processus créatif, il y a quelque chose de très figé. Il faut que toutes les étapes soient financées, approuvées, puis les délais sont tellement longs entre l'idéation du projet puis le tournage. Je pense que dans les deux médiums, il y a des points plus difficiles à vivre en tant qu'artiste, plus faciles ou du moins plus en cohérence avec ma façon de faire. Puis je pense que de naviguer d'un médium à l'autre, ça m'aide à rester équilibré dans tout ça.
Tu travailles beaucoup sur les notions de binarité de genre, de violence sexiste et sexuelle, notamment à travers les arts du cirque.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on a une différence sur ce travail via le cirque que sur les écrans ? Est-ce qu'il y a quand même des similarités ? Comment est-ce qu'on crée autour de tout ça ?
Au cinéma, si le film adresse pas ces sujets-là de l'identité de genre, ben, l'actrice va complètement se fondre dans son personnage. Il y a comme un certain contrôle du de la réalisatrice sur vraiment l'identité de son personnage, puis il y a encore trop peu de films qui abordent ces sujets-là. Tandis qu'en cirque, je pense qu'il y a quand même, bon, il n'y en a pas énormément, mais de place pour les diversités de genre. Mais je pense que quand on se fait engager en cirque, même si ce n'est pas notre projet ou tout ça, même si on se fait donner un rôle, ben, je pense que notre identité de genre peut quand même transparaître sur scène, puis on peut quand même garder une partie de notre réelle identité à travers le personnage qu'on se fait donner, même si on travaille pour des compagnies. Mais je pense que dans les deux médiums, il y a encore trop peu de représentation, ça, c'est certain.
Comment vit-on, comment est-ce qu'on grandit dans une société qui prône des schémas très binaires, très hétéronormés? Est-ce qu'en tant qu'artiste, on peut se dire que cette création-là, c'est une forme d'émancipation?
Dans mon parcours personnel, oui, c'est une forme d'émancipation, certainement. J'ai souffert aussi de certains carcans spécifiques au médium artistique, à ces deux médiums artistiques-là. Mais c'est aussi venu avec une possibilité de m'émanciper à certains, sur certains aspects.
On entend parler en ce moment au Canada que les budgets culturels sont plus ouverts, qu'il y a l'argent qui coule un petit peu plus. En France,
oui.
En ce moment, on se serre énormément à la ceinture.
Ah ouais.
C'est ce qui est sorti cette semaine aux actus.
Okay.
Est-ce que vraiment, au Canada, on a plus de facilité de créer de manière générale que par rapport en France? Est-ce qu'il y a pas mal d'inquiétudes, notamment avec ce qui se passe aux USA?
Ouais, je ris parce que, en fait, vous avez eu l'info de la bonne nouvelle du budget provincial qui est sortie cette semaine,
ouais,
j'imagine. Mais est-ce
ça.
Que vous aviez eu les échos de l'année entière où toutes les organisations artistiques se sont mobilisées pour empêcher les coupures? Mais je pense que première donnée à établir, c'est qu'on n'a pas de système d'intermittence au Québec. Donc, c'est extrêmement différent dans la façon de pouvoir faire nos projets. Le statut d'artiste vient avec aucune sécurité sociale, en fait.
Mm.
Donc, ça fonctionne vraiment par subvention. On dépose par projet. Puis, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'il y a eu des grandes coupures sur ces budgets-là. Puis, ça fait comme un an qu'on se mobilise. Il y a eu comme un front commun de différentes organisations qui sont mis ensemble pour défendre nos droits d'artistes. Ça a été une longue année de lutte et de bataille.
J'ai l'impression que plus le temps passe, et notamment avec la fascisation de la société, si je peux me permettre, plus la culture et les arts prennent cher, au final.
Oui, certainement. Puis, tu sais, je parlais du système d'intermittence au niveau pratico-pratique, là. Mais je pense que ça vient aussi avec une perception sociale. Je pense qu'au Québec, on a encore malheureusement... Je sens que le statut d'artiste n'est pas valorisé au niveau de son importance en société. La création n'est pas valorisée. T'sais, c'est beaucoup... Même dans les milieux artistiques, ce qui est souvent valorisé, c'est le produit final, la diffusion en cirque. C'est combien de shows de cirque on fait, mais ce n'est pas le processus créatif qui est valorisé. En fait, c'est que notre système au Québec par rapport aux arts du cirque est vraiment... construit sur la formation d'interprètes qui travaillent pour des grandes compagnies commerciales. Tout est fait en fonction de ça. Donc, l'éducation est faite en fonction de ça. Les systèmes de subvention sont faits comme ça. Les systèmes de diffusion sont faits comme ça. Donc là, on essaie depuis quelques années de commencer à intégrer le cirque d'auteuriste, de valoriser ça, mais c'est pas gagné parce que c'est culturellement, historiquement, on n'a pas cette culture-là, en fait.
On va revenir à toi et à ta création et à tes créations. Donc, tu fais du cirque documentaire. Est-ce une nouvelle écriture du cirque? Est-ce que c'est un renouveau circassien?
Je pense que définitivement, ça se démarque de ce qui se fait au Québec en ce moment. Comme je dis, on a un système qui valorise peu le cirque d'auteuriste, qui valorise peu les démarches à long terme. Mais cirque documentaire, j'ai nommé ma démarche de cette façon. Au Québec, on vit encore beaucoup avec le cliché de la perception du public que le cirque n'est que pur divertissement. C'est beau, hein, mais c'est pas des œuvres qui creusent, c'est pas des œuvres qui critiquent, c'est pas des œuvres qui dénoncent, c'est pas des œuvres qui prennent position, en fait. Donc, je pense que j'appelle ma démarche cirque documentaire aussi pour... marquer cette importance-là que ça a pour moi.
Le cirque peut être politique.
Oui, certainement. À travers le spectacle, je retourne un peu dans mon passé, puis je retrace des événements qui ont pu paraître anodins sur le coup, là, mais qui me sont arrivés dans mon enfance et dans mon adolescence, puis qui ont contribué à forger ma perception de la sexualité, de la féminité, puis comment ces événements-là ont pu me mener à accepter différents rapports de domination. Donc... au final, le spectacle aborde vraiment cet impact-là de l'éducation des jeunes, l'éducation très binaire des jeunes, sur les différents rapports de domination du monde adulte. Ça commence là, tu sais. Je pense que c'est aussi... si on a un espoir à avoir, c'est dans les futures générations, tu sais. C'est très important, hein, puis c'est ce que j'essaie de véhiculer dans le spectacle, l'importance de l'éducation des jeunes. Ouais. Puis c'est pour ça que je défends le terme documentaire aussi, parce que c'est l'impact... que l'œuvre peut avoir. Puis pour moi, le plus beau commentaire que j'ai par rapport à ce que c'est quand les gens reviennent vers moi par la suite, m'écrivent un mot en disant « Fred, arrivé à la maison, j'ai parlé à mon ami, à mon partenaire, à ma mère, à mes proches, en fait, de certains sujets, puis ça a permis d'ouvrir des canaux de discussion. » C'est à ce moment précis que j'ai l'impression d'avoir accompli ce que je voulais faire avec ce que c'est.
On retrouve Inès Macario de la compagnie L'Acide qui nous montre à travers une conférence acrobatique que les normes, les codes imposés ne nous mettent pas forcément plus en joie.
Nous accueillons Inès.
Bonjour.
De la compagnie L'Acide. Silex, donc, c'est une conférence spectacle autour de l'acrobatie donc, qui est présentée dans la 7e édition de Créatrice. On est donc entre l'acrobatie et la sensibilisation à l'éducation sexuelle et affective. Pourquoi ce sujet? Pourquoi c'est important, surtout en ce moment?
Je pense que c'est un sujet qui, de toute façon, est important tout le temps. Je pense que Silex s'inscrit quand même dans une mouvance de récostellement par rapport à la sexualité, ça c'est sûr. Je pense que c'est pour ça aussi que ça m'est arrivé à ce moment-là d'avoir envie d'en parler. Parce que, en fait, autour de moi, beaucoup de questionnements se soulevaient. Je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de participer à ça. Ça fait quoi des choses que je vis, des choses que plein de personnes dans mon entourage vivent? Et je pense que oui, aujourd'hui, c'est hyper important. Enfin, on voit bien que même les violences homophobes augmentent. Moi, quand j'ai commencé Silex, on disait qu'une femme en France se faisait violer toutes les 6 minutes. Et maintenant, c'est toutes les 2 minutes 30. Donc voilà, et j'ai commencé du coup ce projet en 2022, on est en 2025, je pense qu'il y a eu quand même tout un tas de mouvements, dont MeToo, pour parler de ça, et en fait on voit que c'est quand même en augmentation. Ou en tout cas, la manière dont on pose les statistiques a changé. Je pense qu'aussi beaucoup plus de gens en parlent, donc est-ce que ça a augmenté? Est-ce que juste c'est beaucoup plus vulgarisé, les gens se permettent d'en parler? Ça je sais pas, j'ai pas les moyens de le savoir, mais en tout cas les statistiques font flipper.
On parle aussi depuis peu, depuis pas vraiment si longtemps que ça, de charge mentale ou de charge partagée. On a les droits des femmes qui sont remis en cause dans certains pays, notamment l'IVG aux US. Mmh. Mais il y a des choses qui avancent, des prises de conscience qui sont là, les injonctions masculines reculent. Et pourtant, les minorités masculinistes se font de plus en plus présentes dans les médias, sur les réseaux. Quel regard on porte sur tout ça, surtout quand on est artiste et quand on essaye de sensibiliser?
C'est vrai qu'on voit vraiment les mouvements masculinistes croître, notamment avec les incels aux États-Unis. Et je pense qu'en fait, personnellement, je pense que il y a tout un tas de mouvements qui sont venus bousculer des zones de confort chez tout un tas de personnes. Et par là, j'entends des hommes blancs, cis, hétéros, et qui voient leurs privilèges diminuer, et une zone de confort, des questionnements qu'ils n'avaient pas à avoir avant. Et je pense des critiques par rapport à des comportements qu'on leur a inculqués. Ça ne m'étonne pas que ça crée de la défiance par rapport à ça. Personne n'a envie d'être, d'être le mauvais ou de voir ces zones de confort déplacées. Je pense que c'est aussi bête que ça. Et qu'il faut beaucoup d'empathie, je pense, pour accepter de se dire que ces privilèges, en fait, on va un peu y renoncer pour essayer de faire de la place à d'autres gens. Mmh. Et il faut beaucoup d'empathie et accepter ça. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas l'éducation qu'on a donnée aux hommes ces dernières années, je pense. Aux hommes cis.
Tout à fait.
On observe en ce moment sur les réseaux une montée de contenu pédagogique sur les questions des sexualités, des genres, du consentement, alors que les grands médias vont dans le contresens. L'éducation sur ces sujets à l'école est mal faite ou pas faite du tout. On entend beaucoup de polémiques et de désinformation. Comment on remédie à ça? L'art vivant peut-il aider à démocratiser ou à sensibiliser?
Alors je pense que oui. Moi j'ai l'impression que beaucoup chez les professeurs à qui j'ai travaillé là sur Silex, il y a beaucoup de volonté dans les milieux scolaires, chez des personnes en éducation nationale, d'avoir envie d'aider là-dedans, mais qui, des fois, n'ont juste pas les moyens. Là, on voit qu'avec le gel du pass culture, par exemple, tout ce genre de démarche, en fait, est fragilisé énormément. Je pense que c'est les premières, évidemment, à le subir. Moi, j'ai senti qu'il y avait aussi beaucoup de volonté de la part de certains professeurs de faire venir des projets comme Silex, qui, par du coup, qui vulgarise l'éducation sexuelle, mais aussi beaucoup de crainte, de la peur des parents, de la peur des directions, la peur du rectorat, de se voir pénalisé, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi tout ça, je vois sur le terrain, en tout cas. Que même s'il y a la volonté, c'est quand même flippant. Enfin, on voit bien de toute façon avec les élections et comme vous dites avec les médias, il y a quand même tout un tas de gens qui n'ont pas envie qu'on vienne porter un message sur une éducation sexuelle qui inclurait les LGBTQIA+, notamment. Donc je ne sais pas si, à quel point l'art peut remédier à ça. Je pense qu'en tout cas, nous, quand on a joué Silex, les retours des élèves étaient vraiment trop bien. Et même aux endroits où je pense qu'il y a eu des désaccords, il y a au moins une écoute, vraiment. Et puis on vient poser des graines, on ne vient pas persuader ou faire une propagande, en fait. On vient juste exprimer notre point de vue. Nous, on s'aligne sur la politique du planning familial comme positionnement. On vient poser des graines, quoi.
Les jeunes adultes, les ados qui arrivent aussi, ont l'air d'être plus décomplexés que les générations passées. Et pourtant, d'après différentes études, ce sont ces jeunes-là qui pratiquent le moins, qui sont le plus en souffrance mentale, en dépression, anxiété, etc. Comment retrouver du plaisir tout court, du plaisir de vivre?
Je comprends tout à fait l'anxiété des jeunes d'aujourd'hui. Et en vrai, je ne sais pas, le spectacle vivant, qu'est-ce qu'on peut faire face à la situation politique actuelle? En vrai, la situation climatique, je pense que je comprends que ce soit anxiogène, quoi, pour les jeunes. Après, j'ai l'impression, enfin, j'ai envie de me raconter que s'il y a peut-être moins aussi de rapports sexuels, peut-être qu'ils sont plus qualitatifs, à défaut d'être quantitatifs.
Finalement, le sexe, est-ce que c'est magique ou acrobatique?
Alors, moi, je le vois de manière plus acrobatique, on va dire. Non, si je peux faire un parallèle, du coup, entre pourquoi j'amène le corps dans le Silex. Bah, bon, c'est ma formation, déjà, de passer par là. Voilà. Donc, c'est mes outils d'artiste. J'ai trouvé vachement ludique et assez évident de faire des parallèles entre un corps acrobatique et le corps sexuel. Et ça me permet vraiment de montrer des scènes de sexe sans que ce soit vulgaire, plaqué, sous-titré, ou même moi de mettre un endroit de gênance. Et c'est assez drôle, en fait. Je pense que ça permet vraiment de pouvoir montrer des scènes sensuelles de manière socialement partageable à partir de 14 ans dans un milieu scolaire ou devant une famille ou dans tout public.
Tout de suite, on se glisse sous la toile du chapiteau du cirque queer pour un moment d'émotion, d'intimité et de show festive et burlesque.
Fondée et créée par Lia Plissot en fin 2020. Elle a rassemblé pas mal de gens qu'elle aimait, qu'elle estimait, qui étaient queer. Et pour construire un peu ce rêve de collectif queer dans le cirque, parce que ça manquait, notamment il y a énormément de discrimination homophobe et transphobe en école de cirque.
Comment décririez-vous l'univers artistique du cirque queer?
Je pense pas qu'on soit parti d'une esthétique en particulier, en tout cas pour monter ce spectacle. ou même dans le collectif. En fait, déjà, dans tout le spectacle, on est vachement parti de nous, nos vécus, et j'ai l'impression qu'on est aussi parti de nos formes d'art et nos formes artistiques. Du coup, il y a un peu plein d'univers, j'ai l'impression, mélangé un peu dans ce spectacle.
À la base, en fait, comme c'est l'IA qui avait construit ce collectif, personne ne se connaissait, en fait, les uns les unes les autres, quasiment, ou de loin. Et en fait, ça a été vraiment aussi un travail de comment on se rencontre artistiquement quand on ne se connaît pas du tout, comment on existe chacun, chacune, à travers nos spécialités, nos arts, nos performances, comment on peut faire coexister ça tous ensemble. Et c'est vraiment de cette rencontre qu'est né le spectacle.
Moi, j'ai une phrase que je déteste entendre. C'est notre différence qui crée notre unité, je trouve, au niveau de l'esthétique du cercle queer. C'est que chacun a ramené sa culture esthétique et son savoir esthétique sur scène, sans vraiment réfléchir à une unité. Et c'est ça, en fait, qui crée du lien, parce qu'il y a un peu une pureté, une sorte de franchise, si j'ai l'impression, au niveau de ce qui est proposé esthétiquement, venant de tout le monde. Et c'est un peu ça le mot d'ordre, je dirais, moi.
Après, moi, je trouve qu'il résulte quand même de tout ça une esthétique hyper particulière, au final, que j'attribuerais aussi aux références au cirque trad qui ont été tordues. Et je trouve que la tendresse, en fait, elle traverse vraiment cette esthétique. Enfin, la chute de fleurs, les couleurs, les roses, les marrons, les verts. Enfin, je trouve que l'esthétique, elle porte du sens et elle est faite de ce que vous avez dit, vraiment de trucs un peu disparates des unes et des autres. Mais au final, je pense qu'il y a aussi cette idée d'aller titiller le cirque trad en s'en revendiquant, enfin en se disant on en fait partie, enfin pas on le jette à la poubelle et tout. Et voilà.
Justement, à propos du cercle traditionnel, quel code de ce cercle-là vous cherchez à déconstruire ou à subvertir ?
Je ne sais pas si on essaie de déconstruire des codes du cercle traditionnel, mais on s'en inspire à des moments comme une forme d'hommage en quelque sorte à nos freaks d'avant. Parce que c'était un peu la place des gens qui pouvaient être comme nous. C'était dans la cirque trad, c'était un peu leur seule place. Et du coup, pour nous, c'est un peu aussi un hommage à ça. Et aussi, comme il y a aussi l'aspect chapiteau, on va sur une place publique, mais en s'affichant clairement en personne queer. Enfin, il y a un peu un enjeu de se réapproprier l'espace public. Je ne sais pas s'il y a une déconstruction du cirque trad. Après, ça glisse quand même sur du cirque contemporain.
À l'endroit du rire, je trouve. Là où un peu le cirque peut être accepté uniquement comme un endroit de divertissement, où on rit et tout ça, et qu'il y a les frics dedans, bah, c'est que le rire, on l'emmène ailleurs, quoi, sur un point sensible, sur qu'est-ce qui touche vraiment. Je trouve que ça, on va ailleurs que dans le divertissement. À la fois, on donne de l'éclat du cirque et tout, et à la fois, on dit ah, qu'est-ce qu'on ressent, en fait, à l'intérieur, en voyant ça, quoi.
C'est qu'il y a une bascule quand même à un moment dans le spectacle, ouais. Avec une entrée très trad, et puis en fait, après, ça fait hup.
C'est ça, en fait, moi, du coup, qui n'est pas au plateau, de ce que j'en ressens, c'est qu'il y a un peu ce truc aussi du cirque trad de venez voir nos freaks, venez voir nous, les queers sur scène, quoi, et d'attraper les gens pour pas qu'ils rient de nous, mais avec nous. Et les emmener avec nous, et c'est aussi un peu ça, la bascule, je trouve, du spectacle. C'est pas juste on se montre et... on est drôle et un peu ridicule, quoi, mais genre, on va vous emmener quelque part.
Les corps ont une place importante dans vos créations. Comment est-ce qu'on peut définir ce sujet ? Est-ce que c'est politique ? Est-ce que ce sont des corps transformables, monstrueux, glorieux ?
Bah, c'est des corps trans, donc c'est forcément des corps glorieux. Enfin, pas que des corps trans, il y a aussi des corps queer, mais... Enfin, oui, moi, je trouve qu'il y a... Il y a de ça. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Moi, je peux parler à mon endroit, ouais. Je pense, car je suis celle qui se met nue dans le spectacle. Pour moi, mon corps et la façon dont je le présente sur scène et dont je l'utilise, aussi, c'est à l'endroit du choix et de l'autodétermination. C'est l'endroit où je décide d'en faire ce que je veux, je décide de le montrer comme je le veux, je décide de comment on va le regarder. Je montre aussi que j'ai un contrôle de mon corps et de ce qu'il ressent et de ce qu'il doit faire aux autres. Donc moi, il y a vraiment... quelque chose qui tourne autour non seulement de la décision, comme je viens de le dire, mais aussi de l'empouvoirment d'un corps qui n'est pas normé car trans, comme tu viens de le dire. Et ça, je le fais pas pour moi uniquement, je le fais surtout pour nous, ici, au plateau, ou alors les gens dans le public, I guess.
Ouais, je sais pas, j'ai pas trop de réponse. Je me dirais plus que c'est une espèce de créature hybride, en fait, l'ensemble du groupe, en fait, et qu'on revient à nos particularités et nos différences, et que le corps, pour moi, c'est... voilà, ça va être des tentacules qui sont complètement différentes d'expression, et c'est plus ça qu'on met en valeur dans le traitement des corps, quoi. C'est un corps qui peut avoir plein de formes à un moment donné, et ça peut passer de l'un à l'autre, et il n'y a rien qui est forcément définitif non plus.
Et c'est un truc de... Pardon, je te coupe, mais c'est un truc de visibilité aussi, j'ai l'impression, et de, encore une fois, mon endroit d'éducation. Parce que je dis, oui, je me mets nu, mais c'est aussi... c'est à travers un numéro de burlesque que je fais ça, à travers un numéro qui, de base, est divertissant, qu'on éduque en fait ce que ça raconte et d'où ça vient. Quoi.
Et je trouve qu'il y a aussi, là je vais sortir un petit peu du spectacle, mais c'est ce qui rebondit un peu avec ce que tu disais, c'est que moi je trouve ça aussi fascinant de voir cette équipe être capable d'être sur scène avec toute sa grâce et tout, et à côté de ça de monter des gros chapiteaux en bourrinant toute la journée, parce que faut porter sa structure quand même, que c'est pas rien, qu'on a choisi de bouger un chapiteau aussi, et cette double casquette, elle est assez fascinante aussi à observer.
Est-ce que vous considérez votre travail comme une forme de lutte, aussi une façon de réapproprier certains termes qui ont pu ou sont encore insultants?
Je ne sais pas trop quoi répondre à part oui. Oui, c'est tout ça, oui. Voilà. Une réponse très constructive.
C'est un truc qui me semble être lisible à travers ce qu'on a dit un peu plus tôt avec l'héritage du freak show, où on se réapproprie non seulement ces termes, mais aussi ces histoires-là.
Bah, y a un côté dans le premier artifice aussi un peu éducatif, pédagogique, puisque c'est vraiment un spectacle tout public. Et donc, ça peut arriver plein de fois qu'il y ait des gens après qui, tout d'un coup, sortent de la projection qu'ils avaient jusque-là, de ce que pouvait vouloir dire tel ou tel terme. Et oui, ça, c'est un travail aussi de lutte, d'ouverture.
Mais on parle pas trop des termes, en vrai, dans le spectacle, quand même. On parle pas trop de queer, le fait de se réapproprier des insultes et tout ça. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop là dans le spectacle, j'ai l'impression.
Peut-être plus sur d'autres formes, les cabarets, ouais, ou la kermesse ou d'autres trucs.
Ouais, c'est ça.
Dans le premier artifice, pas particulièrement. Mais il y a quand même un enjeu de visibilité, discours de résilience qui est présent et qui est une forme de militantisme quand même. Tu parlais de lutte, je pense que le spectacle n'est qu'une partie de la lutte qu'on fait. Vraiment, nous, l'enjeu, c'est le collectif. Là où on lutte aussi, c'est de pouvoir, comme ce qu'a fait Andrea hier et Thomas, c'est d'organiser des ateliers en mixité choisie avec des personnes queer pour avoir des endroits safe d'entraînement, c'est d'organiser des débats politiques, c'est essayer de faire du lien sur les territoires. On avait commencé aussi à faire des ateliers de médiation. Le spectacle aussi prend beaucoup de place. Et on commence seulement à trouver des espaces un peu d'ouverture pour pouvoir faire d'autres choses à côté. C'est vrai qu'on est toujours un peu pris par le temps. Mais il y a cette volonté-là de multiplier, de développer, en fait, d'utiliser notre outil chapiteau et le fait qu'on soit un collectif pour essayer de rassembler et d'être ensemble et de se porter. Et c'est aussi là que la lutte se passe, quoi.
Féminisme, lutte convergente, réflexion pour des pratiques d'art plus inclusives et moins oppressives, autant de sujets qu'on évoque avec Yael Antoine de la compagnie DL.
La compagnie DL, qui est devenue maintenant la compagnie DL, c'est une compagnie qui travaille dans l'espace public, dans des espaces non dédiés, dans des espaces dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir des formes circassiennes. Et c'est un endroit où on travaille sur une hybridation entre les arts de la rue et le cirque. Donc je dirais qu'en fait, c'est une compagnie qui est en grand écart entre deux mondes, et ça lui va bien. Mais c'est aussi une compagnie qui s'engage dans plein de choses au quotidien des artistes, notamment sur les questions des parentalités, des coparentalités, sur les questions des violences et harcèlement sexité sexuelle. Là, nous abordons dans le cadre de ce rassemblement sur Créatrice les pédagogies critiques. Et c'est aussi une façon de s'engager. En fait, on se veut à un endroit artiste et militante. Surtout, on rêve et on espère transformer un peu le monde grâce à nos actions au quotidien, dans nos espaces d'enseignement, de transmission, dans nos endroits d'écoute et de création.
Tu le disais justement, ta compagnie a changé de nom récemment, de la compagnie DL à la compagnie DL. Peux-tu nous expliquer ce changement ?
Le changement, en fait, c'est plutôt, je parlerais plutôt d'une transformation, de quelque chose qui est de l'ordre de la mutation. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de débinariser le monde, en fait, et que je ne supporte plus les classifications. Il y a quelque chose qui se trouve à l'endroit de l'hybridation, de la cohésion et de la collaboration. Et c'est cet endroit-là où j'ai envie de me trouver. Je n'ai pas envie de me retrouver contre ou pour. J'ai envie de me retrouver à l'endroit du mélange.
L'égalité femmes-hommes a encore beaucoup de chemin à faire. Dans le milieu culturel et artistique, les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes et pourtant elles sont moins visibilisées. Comment on peut expliquer ça encore aujourd'hui, en 2025? Pourquoi c'est important de mettre en avant la créativité des femmes et des minorités de genre?
Alors, tout simplement parce qu'elles sont minoritaires sur les parcours de formation professionnelle et supérieure, alors qu'elles sont largement représentées quand elles sont à l'étape du loisir, en fait. Mais ça, c'est pas que dans le cirque, c'est aussi dans la danse, c'est aussi dans les arts de la rue, c'est un peu partout. Il va y avoir plusieurs freins après aux carrières. Il va y avoir effectivement, j'en parlais un peu plus tôt, la question des parentalités. Ça va être un vrai frein. La question d'être sous-représentée en tant que personne racialisée. Il y a des personnes qui vont être énormément stigmatisés pour leur choix personnel, leur choix de parcours. Et du coup, ça va pas jouer dans le bon sens de leur carrière. Il va y avoir aussi des violences sexistes et sexuelles qui vont venir surajouter des embûches. Ça va du commentaire sexiste à l'agression sexuelle ou au viol. Et ça, on sait en fait que les personnes racialisées, les personnes sexisées, les personnes minorisées en fait sont beaucoup plus à même de subir et de vivre ces violences. Donc en fait, il y a plein de freins qui vont expliquer leur non-représentation. Mais aussi, et c'est important de le dire, c'est un secteur qui a été créé par des hommes pour les hommes. Et aujourd'hui, il est temps de tendre le micro, même si on a et on fait face actuellement à des coupes budgétaires et qu'on sait très bien que les personnes les plus renforcées vont subsister à ces violences, puisqu'aujourd'hui, on est hyper précarisé dans le secteur de la culture, du cirque, des arts de la rue. Je tiens à le dire, c'est important. Et je pense que ça va encore jouer en notre défaveur. Il ne faut surtout pas arrêter de s'associer, il ne faut pas s'isoler, il faut rester ensemble et il faut s'autoproduire, s'autoprogrammer, il faut être là, il faut lutter.
La culture a vu ses budgets, comme tu le disais, drastiquement diminuer ces derniers temps. De ton point de vue, pourquoi et quelles en sont les conséquences? Y a-t-il un avenir pour les arts et la culture?
Moi, je suis une personne, je suis porteuse d'espoir. Je pense qu'à un moment, il y a eu MeToo. Et MeToo, c'est une révolution. Dans le regard, dans les représentativités, c'est une révolution. Il y a des nouveaux récits qui arrivent. Il va falloir les entendre. C'est difficile de les entendre. Je comprends. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Ça ne peut plus être satisfaisant. Ça ne va plus. C'est en train de s'effondrer. Moi, je vois davantage ça comme une période et peut-être l'occasion de faire les choses autrement et de reconstruire autrement, plus que comme une fin. Je ne pense pas que ce soit une fin. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de finir de s'arrêter. Pour moi, je ne vais pas parler politique là, mais pour moi, on le voit dans les politiques Trumpistes. Excusez-moi de m'être trompée. J'aime bien jouer avec ce mot. Non, en fait, c'est-à-dire qu'on voit vraiment comment le capitalisme poussé à son extrême, en fait, va créer en fait, une situation d'autodestruction. Et c'est comme si un peu Trump, il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Et ça va passer par un moment d'effondrement. Mais peut-être que dans ce chaos, en fait, à un moment, il y a quelque chose qui va passer et il y a quelque chose qui risque de refleurir. Et quand je dis refleurir, il est temps qu'on s'intéresse aux vivants. Il est temps qu'on prenne soin les uns les unes des autres. Parce que là, ça ne va plus. On ne peut pas continuer chacun comme des dingues à filer dans nos couloirs et à essayer de ramasser quelques miettes. Ce n'est plus possible. Il faut qu'à un moment, on réinvente quelque chose. Donc voilà, je pense que ça parle de ça. C'est symptomatique pour moi.
Quand on est artiste de cirque, on peut dire qu'on ne gagne pas des 100 et des 1000. Dans ce contexte, comment rebondir? Comment s'organiser individuellement ou collectivement pour aller de l'avant?
Moi, je dirais collaborer, créer des liens, tisser des partenariats. Ouvrez-vous, à l'échelle de votre région, à l'échelle nationale, puis après à l'échelle européenne ou internationale. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Moi, je suis en train d'aller rencontrer en fait, des structures, des compagnies qui pensent autrement les choses. C'est-à-dire qu'on a envie de renouveler les regards et qu'on a envie de tisser d'autres récits. Et du coup, je les rencontre là, par exemple, je suis sur un projet de collaboration franco-suisse, notamment autour des pédagogies critiques, mais aussi je suis en train de travailler sur un projet de collaboration Europe Créative là, avec l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, pour imaginer en fait un travail autour de généalogie circassienne fictionnalisée. Et on est en train de rêver à tout ça et rêver dans plusieurs langues. Aller rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, mettre en place des collaborations avec des personnes qui font face à différentes difficultés. Nous sommes sur des formats différents, sur des temporalités différentes. En fait, ça demande en fait de créer des outils de collaboration, mais ça demande aussi, pas forcément d'être consensuel parce qu'il y a une exigence, mais de trouver l'endroit où en fait on est OK tous et toutes ensemble. Et ça, c'est quelque chose dont on n'est pas habitué et c'est quelque chose, en fait, je pense, les esthétiques de demain, elles seront teintées de ça, de ces collaborations, de ces mélanges. Et je pense qu'il faut mélanger. Ça participe à ce que je disais, hein, débinariser, débinarisons, mélangeons, voilà, mixons.
Cette émission se termine déjà, on arrive au bout de nos 30 minutes de temps de parole. On se retrouve très vite pour une deuxième émission avec d'autres compagnies et artistes engagés sur ces questions sociales d'actualité. La suite de notre couverture de créatrices arrive sous peu sur vos ondes et en podcast avec toutes les interviews en version longue sur radiocaravane.net.
À bientôt, cordialement, bisous.
Radio Caravane est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle, proposé par la Grainerie et les associations Médias Communs et Yves Assam Studio.
Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion s'initie aux techniques radio et web médias.
Ils et elles couvrent la programmation de la Grainerie en réalisant des émissions et interviews diffusées sur une dizaine de radios partenaires.
Ce programme est placé sous licence libre Creative Commons, attribution, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.
Retrouvez tous les podcasts sur radiocaravane.net.